Bonjour, je suis le docteur Dustin Costescu, professeur agréé d'obstétrique et de gynécologie à l'Université McMaster, où je travaille en tant que spécialiste de la planification familiale et de la santé sexuelle. Un groupe d'entre nous s'est réuni à participer virtuellement à la réunion de la Société européenne de gynécologie, qui a eu lieu du 10 au 13 novembre. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller à Venise en personne, mais nous voulions passer rapidement en revue certains des résumés et des présentations les plus importants que nous avons entendu, car nous pensons qu'il y a des implications pour votre pratique clinique. J'ai le plaisir de vous présenter le Dr. Ellie Shore, qui va nous parler un peu d'elle, puis des présentations auxquelles elle a assisté.
Donc, je suis Ellie Shore, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital Saint-Michael de Toronto et je suis professeure adjointe à l'Université de Toronto. Ma présentation va porter sur la relation entre la COVID-19 et les règles, sujet que je trouve vraiment fascinant. Je suis l'une des cofondatrices du guide de la grossesse en période de pandémie, où nous passons en revue les renseignements actualisés sur la COVID à l'aide des médias sociaux. C'est pourquoi je voulais vraiment examiner ce sujet aujourd'hui. La table ronde à laquelle j'ai assisté portait sur la relation entre la COVID-19 et les règles par la docteure Jacqueline Maben. Cela nous amène à nous demander pourquoi nous devrions étudier cette relation. Pourquoi est-ce important? Si l'on y réfléchit, 50% de la population mondiale aura ou a eu ces règles et environ un tiers de ces femmes connaîtront une irrégularité menstruelle au cours de leur vie reproductive. De plus, beaucoup de femmes considèrent les règles comme un signe visible de leur fertilité, alors que certains scientifiques pensent que nous devrions utiliser les règles comme l'un de nos signes vitaux, car elles peuvent indiquer si une personne est en bonne santé ou non. Concernant la COVID-19, le nombre de publications scientifiques a explosé. Plus de 200 000 articles ont été publiés sur la COVID-19 au cours de la pandémie. Mais il n'y a eu que 12 articles sur la relation entre la COVID et les règles, ce qui reflète peut-être bien le degré d'importance que la communauté scientifique accorde à la santé des femmes en général. La docteure Maben a divisé les études en trois grandes catégories. La première catégorie dont nous allons parler est l'influence de la pandémie sur les règles elles-mêmes. Cela n'a donc rien à voir avec l'infection par la COVID ou la vaccination, mais plutôt avec les règles des femmes pendant la pandémie, le confinement, etc. 9 études ont été publiées et ont examiné des éléments tels que la durée, la régularité du cycle, la quantité et la durée des segments, et les douleurs ressenties par les femmes. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a d'énormes variations dans ce que les études montrent. Ces études étaient de faible envergure, elles comptaient entre 50 et 1000 personnes, et pour la plupart, il s'agissait d'enquêtes rétrospectives en ligne. Il était demandé aux femmes de se souvenir de ce qu'étaient leurs règles à cette période. Nous savons tous que ces études peuvent présenter de nombreux biais de déclaration et de sélection. D'autre part, beaucoup de ces études ne parlaient pas de l'utilisation ou non d'hormones, ni n'utilisaient une quelconque terminologie normalisée comme les normes internationales ou la classification FIGO. Et par conséquent, il y a eu un grand manque de cohérence et nous ne pouvons pas vraiment tirer de conclusions, ce qui rend difficile la tâche de dire à nos patientes à quoi s'attendre. La catégorie d'études suivante qu'elle a examinée portait sur la relation entre l'infection à la COVID et les règles. Les deux premières études ont porté sur l'infection aiguë et la dernière sur le syndrome post-COVID-19. Comme nous pouvons le voir ici, l'infection à la COVID semble avoir un effet sur de nombreux aspects du cycle d'une patiente. Ce n'est pas vraiment surprenant si l'on pense aux effets de toute infection grave sur les règles, qu'il s'agisse d'une infection aiguë ou d'une maladie chronique. Nous savons que les règles sont affectées par les infections et les états de stress élevés qui en découlent. Nous pouvons donc indiquer à nos patients qu'il y a probablement des changements liés à l'infection par la COVID sur leurs règles. Mais là encore, ces études n'étaient pas de grande ampleur. Il y avait un biais de déclaration, une terminologie normalisée n'a pas été utilisée et il y avait des facteurs de confusion comme l'utilisation d'hormones. Et si les personnes prennent des hormones pour réguler leur cycle, elles ne peuvent pas voir les effets de l'infection de la même manière qu'une personne qui n'en prend pas. Ensuite, la dernière catégorie d'études dont nous avons pris connaissance est constituée de données non publiées relatives à la relation entre le vaccin contre la COVID et les règles. Deux enquêtes ont eu lieu qui n'ont pas encore été publiées. La première était une enquête américaine portant sur plus de 17 000 personnes en préménopause et doublement vaccinées. Cette enquête s'est déroulée sur les médias sociaux d'avril à juin 2021. Il a été découvert qu'environ 30 % des femmes avaient eu une sorte d'irrégularité menstruelle liée à la première ou à la deuxième dose du vaccin. Et beaucoup de femmes, 70% en fait, ont connu des segments intermenstruels lorsqu'elles utilisaient une MCRAP. L'étude était excellente, en ce sens qu'elle décrivait bien les méthodes et évaluait le volume et la durée des règles. Mais les inconvénients étaient qu'il y avait un énorme biais de sélection, car l'étude se déroulait sur les médias sociaux. Et si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait de nombreuses déclarations sur les médias sociaux concernant les changements relatifs aux règles après le vaccin. Elle a donc probablement sélectionné un grand nombre de femmes qui étaient déjà conscientes de ce type de changements et n'a pas vraiment pris en compte l'utilisation de méthodes de contraception. L'étude suivante était une étude rétrospective britannique portant sur environ 5000 femmes. Des femmes qui avaient eu la COVID et d'autres qui ne l'avaient pas eu, mais qui avaient toutes été vaccinées, ont été choisies. L'étude a révélé qu'un plus grand nombre de femmes avaient des troubles menstruels si elles avaient eu une infection à la COVID-19. Cela peut être lié au fait que les personnes qui se font vacciner après avoir contracté la COVID peuvent parfois avoir une plus mauvaise réponse ou une réponse immunitaire plus importante au vaccin contre la COVID. Il a été constaté qu'il y avait moins de troubles menstruels chez les femmes qui prenaient la pilule contraceptive. Cette étude était donc bien décrite et il y avait moins de biais de sélection. Mais encore une fois, ils n'ont pas utilisé de terminologie normalisée comme la classification FIGO. Cela nous amène donc à réfléchir de manière critique à la façon dont nous abordons l'étude des règles, un phénomène qui touche de nombreuses femmes dans le monde entier et qui doit faire l'objet d'une attention particulière. Les études menées étaient peu nombreuses, comme nous l'avons vu, il y avait beaucoup de biais de déclaration et de sélection basés sur la méthodologie ou la façon dont les études étaient conçues. L'utilisation d'une terminologie normalisée a fait défaut, ce qui rend difficile la comparaison des articles entre eux. De plus, les facteurs de confusion, comme les hormones, le fait qu'une patiente ait eu ou non une infection, qu'elle ait été traitée contre la COVID avec des stéroïdes ou autres, n'ont pas été pris en compte. Tout cela démontre qu'il s'agissait d'une occasion d'apprentissage vraiment manquée et que nous devons nous assurer que les médecins et les gynécologues spécialistes de la santé des femmes sont vraiment impliqués lorsque nous concevons ces grandes études sur les nouvelles infections et les nouveaux vaccins. Maintenant, si nous y réfléchissons quelques minutes, nous pouvons répartir en trois grandes catégories les mécanismes des perturbations menstruelles liées à l'infection par la COVID-19, ou au vaccin lui-même, selon le moment où les règles se produisent ou la façon dont elles se produisent. Au niveau hypothalamique et hypophysaire, nous savons que le stress et les maladies chroniques peuvent affecter les règles. Il est donc facile de généraliser et de penser qu'une infection aiguë très grave par la COVID ou une infection prolongée par la COVID pourrait affecter les règles de cette manière. Sur le plan ovarien, il est possible que l'infection affecte la production d'estrogène et de progestérone, ce qui pourrait ensuite entraîner un dysfonctionnement ovulatoire. Sur le plan endométrial, nous savons qu'une inflammation se produit lors de la chute du taux de progestérone à la fin d'un cycle. Ainsi, si une infection à la COVID-19 ou un vaccin contre la COVID-19 provoque une plus grande inflammation, cela pourrait certainement créer des irrégularités menstruelles. Et de même, une personne très malade à cause de la COVID peut présenter une hypoxie qui peut entraîner des perturbations et des vasoconstrictions au niveau de l'endomètre. Nous avons beaucoup entendu parler du dysfonctionnement des cellules endothéliales liées à la COVID et des caillots sanguins qui peuvent se former. Et la coagulation pourrait en être affectée au niveau de l'endomètre, où il pourrait y avoir des médicaments comme la dexamétasone pour traiter la COVID qui pourrait affecter les règles d'une femme. Donc, en ce moment, une étude est menée à Édimbourg sur le syndrome post-COVID et ses effets sur les règles. Les femmes qui ont leurs règles malgré le syndrome post-COVID sont examinées à trois moments de leur cycle. Elles sont donc suivies pendant la phase de prolifération, la phase de sécrétion et lorsqu'elles ont leurs règles. Un échantillon de sang est prélevé et des biopsies de l'endomètre sont réalisées, puis comparées à une banque de matériel biologique provenant de prélèvements effectués chez des femmes avant l'apparition de la COVID, afin de déterminer si des changements interviennent à l'un des niveaux dont j'ai parlé précédemment. Et même si aucun changement n'était observé, cela peut être rassurant pour nos patientes de savoir qu'il n'y a pas de changement majeur. C'était un exposé très intéressant qui m'a fait réfléchir à plusieurs choses. La première chose est que ce travail aborde vraiment l'importance de reconnaître l'expérience de nos patientes en matière de troubles menstruels. Les femmes considèrent souvent leurs règles comme un signe visible de leur fertilité. Et lorsque les données sur le lien entre le vaccin contre la COVID et les troubles menstruels ont été publiés pour la première fois, je pense qu'en tant que médecin, nous avons essayé de minimiser les inquiétudes de nos patientes parce que nous étions inquiets qu'elles hésitent à se faire vacciner. Mais j'ai constaté que nous devions être sensibles à cela et l'intégrer dans nos conseils. Il peut être utile pour nos patientes de savoir qu'il peut y avoir une cause immunologique à la modification de leurs règles qui n'est pas encore comprise. Mais il existe de nombreux articles indiquant que le vaccin ou l'infection elle-même ne devrait pas affecter leur fertilité future. Et je pense que le fait de pouvoir rassurer nos patientes avec ces renseignements est très utile. Le deuxième point à retenir est l'énorme possibilité manquée pour la santé des femmes en ce qui nous concerne en tant que défenseurs des essais cliniques prospectifs et de l'amélioration des stratégies de surveillance des vaccins. Au Canada, il faut déjà chercher ce formulaire. En tant que patiente, il faut le remplir. Il n'y a en réalité aucune question sur les irrégularités menstruelles et il faut ensuite le renvoyer par la poste. Ainsi, tout cela incombe surtout aux patientes qui signalent ce genre de changements liés au vaccin et nous devons réfléchir à la manière de mieux procéder à l'avenir. De plus, les renseignements sur les dernières règles d'une femme au moment de sa vaccination ne sont pas pris en compte, ce qui pourrait également avoir un effet sur la façon dont elle réagit au vaccin. Le point important que j'ai souligné avec mes patientes est que les effets de la COVID-19 et ou de la vaccination peuvent être transitoires. Mais si quelqu'un a des segments anormaux, nous devons toujours les traiter de manière appropriée. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les femmes ménopausées atteintes de segments. Je ne saurais vous dire le nombre de patientes à qui je parle et qui me disent qu'elles ont eu des segments après la survenue de la ménopause, mais qu'elles viennent de recevoir leur vaccin, donc que c'est normal. J'insiste vraiment auprès d'elles sur l'importance d'examiner cela de plus près, car il ne faut pas tout attribuer au vaccin contre la COVID. Le dernier point est que lorsque nous pensons à la conception d'études qui portent sur les effets des infections ou les répercussions des vaccins, nous devons vraiment utiliser une terminologie normalisée. Nous ne pouvons pas réinventer la roue pour chaque étude que nous réalisons, car cela compliquerait la tâche des cliniciens qui nous succéderont pour interpréter ces études et en tirer des conclusions utiles pour nos patients. Donc, en résumé, c'était un excellent exposé et je suis vraiment heureuse d'avoir pu le partager avec vous.
Merci beaucoup, Dr. Shore. Très intéressant. C'est une expérience très courante durant la pandémie, une expérience très courante rapportée par les patientes pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de publications et qui peut être sujette à la création de tribunes, je suis d'accord. Nos recherches doivent être financées. Elles ont besoin d'être validées et nos patients ont besoin d'être écoutés. C'est très important. Quels sont les points de discussion utiles pour vos propres patientes qui viennent au cabinet et qui disent avoir subi un changement lié à leur cycle à la suite de la vaccination contre la COVID ou qui s'inquiètent des changements dans les cycles qu'elles ont subis pendant la pandémie?
Bonne question. C'est certainement quelque chose qui revient souvent. Je pense aussi le fait que les gens soient beaucoup plus souvent chez eux ou simplement conscients de leur santé en général fait que cela occupe une place de plus en plus importante dans l'esprit de chacun. Par conséquent, la première chose que je leur dis est qu'effectivement, il y a beaucoup de signalements d'irrégularités liés au vaccin. Je le reconnais et je pense que c'est une bonne chose qu'elles surveillent la situation. Le second point consiste à leur demander si c'est quelque chose qui s'est produit pendant un ou deux cycles ou si c'est quelque chose qui dure depuis plus longtemps. Parce que je pense que si quelque chose se produit pendant plus d'un ou deux cycles, cela justifie des examens, qu'il s'agisse d'analyses de sang, d'une échographie, d'une biopsie de l'endomètre, d'un examen physique, juste pour examiner le col de l'utérus et voir s'il y a quelque chose. Je les encourage donc à venir me voir et à faire un bilan complet de leur situation si celle-ci dure plus de quelques cycles. Par ailleurs, comme je l'ai déjà mentionné, pour les femmes ménopausées, peu importe si c'est lié au vaccin, il faut faire une biopsie et une échographie chez ces femmes. Puis, si on ne trouve rien, on pourra éventuellement dire que c'est lié au vaccin, mais pas avant d'avoir fait un bilan complet.
Et hormis les saignements durant la ménopause, quels autres symptômes sont à rechercher par les patientes qui ont des inquiétudes au sujet de leurs règles et qui devraient leur faire penser qu'il faut consulter leur fournisseur de soins primaires ou que ce dernier devrait envisager de les orienter vers un service de gynécologie?
Bonne question. Je pense que toute absence de règles pendant plus de 3 mois consécutifs est un signal d'alarme. En particulier après avoir éliminé la possibilité d'une grossesse ou d'un problème de prolactine ou de TSH. Toute femme qui a des règles très abondantes, qui inonde ou imbibe plusieurs grandes serviettes hygiéniques par jour, qui ressent des symptômes d'anémie à cause de ses segments abondants, ou toute femme qui a des segments irréguliers, c'est-à-dire des segments qui durent plus d'une semaine à la fois ou surviennent plusieurs fois entre les règles, sont autant de choses qui me préoccupent. Un omnipraticien devrait commencer par une échographie et des analyses de sang pour vérifier l'hémoglobine, le fer et la thyroïde, ce qui est toujours un bon point de départ. En outre, l'âge et l'indice de masse corporelle peuvent être un facteur d'inquiétude supplémentaire, c'est-à-dire avoir plus de 40 ans ou un indice de masse corporelle élevé.
Excellent. Nous saisissons cette occasion pour vraiment souligner aux fournisseurs de soins de santé l'importance que les femmes accordent à leur propre cycle menstruel. Nous voyons cela souvent en tant que gynécologue et je suis d'accord. Il est considéré comme un signe vital non seulement pour la santé actuelle, mais aussi pour la santé et la fertilité future. De ce fait, cela nous est très utile. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, Dr. Shore, et pour avoir fait le point sur ce sujet. Espérons que nous aurons plus de données à montrer au fil du temps et que les femmes profiteront de 2022 pour faire passer leur santé reproductive en premier, se faire examiner, mettre à jour leur dépistage et ne pas subir des règles douloureuses si c'est ce à quoi elles sont confrontées. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci. Merci de m'avoir reçu. C'était très agréable.